Prosenectute et son shop de moyens auxiliaires au passage du Cardinal à Fribourg vous présentent Radio Fribourg,
Coin de ciel avec Sœur Marie-Pierre.
Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus. Daniel Levasseur est un professionnel de l'écoute et ce matin nous allons découvrir qui est celui qui a d'abord été aumônier en milieu carcéral et quelques années plus tard aumônier d'hôpital au CHUV à Lausanne. Son ouvrage, La parabole du mûrier, édité aux éditions Saint-Augustin, nous servira de fil rouge tout au long de cette demi-heure. L'histoire de Daniel commence par une affaire de petits doigts cassés. Un jour, alors qu'il taillait les branches de son mûrier dans le jardin, la chaise sur laquelle il était se mit à basculer, le laissant au sol. La guérison sera plus longue et douloureuse qu'il ne l'avait imaginé. Occasion de se mettre en lien avec ceux et celles qui l'accompagnent et dont il partage désormais le sort. Daniel Levasseur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir nous parler de votre livre « La parabole du mûrier » paru aux éditions Saint-Augustin. Mais tout d'abord, quel est votre parcours de vie qui va de chez vous à chez nous? J'entends par là du Québec au canton de Fribourg.
Oui. Bon, d'abord de dire que ça va peut-être s'entendre à l'accent, donc je viens du Canada, je viens du Québec. Et je suis arrivé en Suisse la première fois en 1983, 83, comme on dit ici. J'avais 21 ans et je venais au noviciat des Pères Blancs. J'étais en communauté chez les Pères Blancs. Et puis, j'ai fait un bout de parcours de 5 ans chez les Pères Blancs, en formation, noviciat, ce qu'on appelait le scolastica à l'époque. J'ai fait un stage de 2 ans en Afrique, donc pour vérifier que je pouvais vivre dans cette mission qui était le projet principal des Pères Blancs.
C'était votre projet ou une envie comme ça?
Non, pour moi, j'avais vraiment eu le sentiment d'avoir eu un appel. Un appel qui m'attirait d'aller vivre comme ça dans un pays d'Afrique, dans les pays d'Afrique, parce que la mission des Pères Blancs, c'est uniquement, aujourd'hui on dit les missionnaires d'Afrique, hein, parce que voilà, Pères Blancs, ça passe plus. Leur tâche principale, c'est d'être en Afrique. Donc, il y a eu une espèce de coup de foudre comme ça, de tout quitter pour partir dans ce projet-là. Mais finalement, après 5 ans, je dirais que ça a été une quête d'identité. En fait, je pense que Daniel, il se cherchait. Il cherchait qui il était.
Et il a trouvé.
Ben, je pense qu'il a trouvé en se confrontant à différentes réalités. Et puis, en fait, j'ai pu vérifier que la vie en communauté, ça se passait bien. Apprendre une langue africaine, ça se passait bien. Le climat africain m'allait bien. Mais le problème, c'était la question du célibat. Voilà. Être prêtre, être missionnaire, ça veut dire vivre seul, vivre la chasteté. Et cette question-là, elle revenait souvent, je me posais souvent la question, et à un moment donné, j'ai dû tirer un fil rouge et me rendre compte que c'était pas pour moi.
Est-ce que c'est en Afrique que vous avez trouvé que votre voie n'était vraiment pas celle que vous étiez en train de vivre?
Je pense qu'il y a eu plusieurs clins d'œil, quoi, en fait. Je pense que dans les différentes étapes où j'étais, que ce soit en Suisse, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, parce que la dernière année, c'était en France, et j'ai créé des relations avec des personnes, qui m'ont amené à me poser la question, effectivement, si je pouvais vivre seul, parce que, voilà, je me rendais compte que facilement, je crée un lien avec une dame ou avec quelqu'un du sexe opposé, Et jusqu'au moment où j'ai été amené à vivre la grande retraite ignatienne, ici à Fribourg, à Notre-Dame-de-la-Route. Mm-hmm. Ça date de pas mal d'années, c'est en 87. Et après quelques semaines, très rapidement, j'ai réalisé que fallait que je prenne une autre voie.
Vous aviez entendu l'appel. Alors, c'était pour être honnête avec vous et avec un engagement religieux et missionnaire. Donc, ce n'était pas une trahison face à Dieu.
Exactement, exactement. Je pense que de me retrouver, moi, c'était être fidèle à qui je suis. Et d'ailleurs, très rapidement, les choses ont suivi, parce que moi, j'ai cru que je rentrais au Canada, que c'était fini pour moi l'Europe, que toute cette page-là était tournée. Mais j'ai une amie que j'avais connue l'année où j'étais à Fribourg, la première année, pendant mon noviciat, avec qui j'avais gardé des liens, qui était une très grande amie. Et tout à coup, les événements ont fait qu'on s'est retrouvés, mais avec tout à coup un projet de couple.
Les sentiments, là, se sont révélés.
Ben, je pense qu'ils étaient déjà là, mais je sais pas comment dire. Ils se sont révélés autrement, peut-être. Et en fait, il s'est passé quelque chose pendant cette grande retraite où, quelque part, je me suis posé la question, mais pourquoi ce serait pas avec elle que j'aurais un projet à vivre? Et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, j'ai l'impression que Dieu me propose de faire un bout de chemin avec toi. Et puis maintenant, ça fait 34 ans.
Voilà. Un long bout de chemin.
C'est ça. Et puis, voilà, c'était finalement, je parle de ça pour parler de la première fois où je suis venu en Suisse. Mm-hmm. Et très rapidement, comme moi, j'étais un peu un nomade en ayant changé souvent de pays et qu'elle, elle avait un travail ici, elle avait un appartement ici, on a choisi assez naturellement de vivre en Suisse.
À l'instant de divers engagements, vous les avez cumulés ou bien, comment dire, vous les avez réalisés par épisode?
Plutôt comme vous dites, je les ai faits par épisode. Donc, dans mon premier mandat, par exemple, j'ai été 6 ans animateur de jeunes et après, je me suis orienté vers autre chose. Mais très clairement, c'est dessiné l'envie pour moi de faire un travail d'écoute, donc un travail d'aumônerie. Donc, c'est ce que je visais à un moment donné, parce qu'en plus, en parallèle, j'avais fait toute une formation à l'écoute, une formation en relation d'aide à l'écoute, mmh. et dans laquelle même j'étais formateur, je suis devenu formateur en relation d'aide. Mmh. Donc j'ai formé pas mal de gens en Suisse romande dans ces domaines. Et puis c'était évident pour moi que ma spécialité, c'était un travail d'aumônerie, où on est plutôt d'abord des écoutants, plutôt que des animateurs, par exemple.
Parce que chez les prisonniers, est-ce qu'il y a beaucoup de candidats qui se présentent comme aumôniers? Ça doit être quand même plus dur que d'écouter même des jeunes ou bien des paumés.
La différence, elle se situe au niveau de ma capacité à aller au-delà de ce que la personne a fait, du délit que la personne a commis, d'être capable de rencontrer une personne. Mmh. Indépendamment du délit qu'elle a commis, ou bien à l'hôpital, indépendamment de la maladie que la personne a ou de symptômes qu'elle a, c'est de rencontrer d'abord et avant tout une personne. Mmh. Et si on n'est pas capable d'aller au-delà de ça, parce qu'on a, on a toujours des craintes et des peurs, mmh, de rencontrer quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a violé, c'est pas pour nous. C'est là où il y a la différence. Pas dans le fait d'écouter ou pas écouter. Je pense que là, tous les aumôniers ont la même formation. Mais je pense pas que la prison, c'est pour tout le monde. Voilà.
C'est assez dur, je pense. Tout d'un coup, Daniel, vous décidez d'aller, donc on en a déjà parlé, aumônier d'hôpital. Ce qui vous attirait le plus, si j'ai bien compris, c'était la personne. Un malade, vous le voyez très peu, parce qu'il reste pas beaucoup à l'hôpital. Donc, comment vous pouvez faire un travail D'écoute, oui, mais de suivi.
Comme vous dites, la grande majorité reste peu. C'est vrai qu'on peut-être les personnes, la grande majorité, on les voit une fois, deux fois. Mais il y a aussi des gens qui restent très longtemps à l'hôpital. Et ça, on a tendance à l'oublier. Hein. L'année dernière, j'ai encore accompagné une jeune fille de 26 ans qui était là depuis 2 ans. Et donc, qui avait une maladie d'enfance, depuis son enfance, et il y avait beaucoup de complications. Et heureusement, elle a pu quitter 1 ou 2 mois avant que moi je parte. Donc, elle a pu aller dans une structure médicalisée vers Neuchâtel. Et puis, pour elle, c'était un soulagement de sortir de cet hôpital. Mais imaginez, sa chambre d'hôpital, c'était sa chambre de jeune fille. Donc, il y avait ses doudous, il y avait ses armoires, il y avait ses... C'était la seule chambre comme ça dans l'hôpital, ou presque. Ouais. Et puis, elle était là depuis 2 ans.
Quand il reste 2 ans, par exemple, ou même moins, surtout moins, on l'espère, est-ce que vous faites encore un suivi? Vous les accompagnez encore quand ils sont rentrés à la maison?
En principe, pas. En principe, pas, parce qu'on n'arriverait pas. On n'arriverait pas à tout faire. Et ça, c'est quand même un manque hein, dans notre pastorale, c'est de pouvoir faire un lien avec d'autres personnes du terrain qui peuvent continuer d'accompagner ces personnes. On essaie de développer, ça c'est toujours dans des projets, hein, de développer une aumônerie qui irait à domicile. Parce que c'est quand même autre chose d'aller rencontrer les gens à domicile chez eux que de dire, ben voilà, vous venez à la paroisse, vous venez à la messe. C'est pas nécessairement de ça qu'ils ont besoin, mais on doit, je pense, aussi développer une église qui est en sortie. C'est l'expression dont on parle maintenant. Une église qui va rencontrer les gens là où ils sont chez eux.
Et c'est important. Oui. C'est important de les rencontrer dans leur lieu de vie.
Et ça peut arriver, ça m'est arrivé. Je pense qu'à la fin de ma carrière, ces derniers mois, j'avais gagné beaucoup en liberté. Mais peut-être que c'est lié au fait qu'on sait qu'on va partir, on se donne plus de liberté dans ce qu'on fait. Et je sais que j'ai accompagné, par exemple, 2 situations de monsieur qui sont morts de cancer, des jeunes de 50 ans, dans la cinquantaine, comme ça. Et j'ai créé un lien assez étroit aussi avec les épouses. Et j'ai pu animer aussi les cérémonies d'enterrement, etc. Et j'ai eu envie aussi de me dire, tiens, je vais continuer... Même à l'extérieur, je vais continuer à prendre des nouvelles de ces dames, comment elles vont, comment elles vivent ce deuil. Parce que moi, je trouve, et peut-être que je sais pas si je le dis dans le livre, mais il me semble, je trouve que dans nos paroisses, on pourrait soigner un peu plus ça. Le suivi après les deuils. Des fois, on revoit les gens une fois, mais on pourrait les revoir pendant une année. Et moi, je pense que ce serait pas trop d'accompagner les gens. Juste pour dire comment tu vas, comment ça se passe, prendre ce temps en paroisse.
Daniel, on a parlé tout récemment des sacrements. Vous n'êtes ni prêtre ni diacre. Quels sont ceux que vous pouvez ou ne pouvez pas donner?
Vous avez raison, hein. Donc, en tant que laïque, je ne peux pas donner tellement de sacrements. Je peux donner, j'en parle dans mon livre aussi, je peux donner le sacrement du baptême dans une situation d'urgence, par exemple. Et ça peut arriver à l'hôpital qu'un enfant très jeune, on sait qu'il va mourir et les parents souhaitent qu'il soit baptisé. À cause de l'urgence, je peux décider que je vais donner le sacrement du baptême. Mais autrement, comme vous dites, les autres sacrements, principalement le sacrement des malades, on va demander à un prêtre de venir. Donc dans notre équipe, en tout cas au CHUV, il y a un prêtre qui est là, à qui on peut demander en tout premier lieu, mais il y a toute une équipe de collègues aussi qu'on peut appeler si lui n'est pas disponible. Et ses collègues viennent, et donc ils sont déjà prévus hein, pour venir dans ce milieu-là, donc ils connaissent le milieu hospitalier et puis ils sont à l'aise dans ce milieu hospitalier. Il y a aussi la communion Et là, ça, on peut apporter. On peut apporter la communion aux patients.
Puis, comme vous disiez tout à l'heure, présider les enterrements.
Oui, ça, c'est sur demande, disons, des familles. Et c'est quand même exceptionnel. Hein. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que là où j'ai travaillé, donc au CHUV, en temps normal, parce que là maintenant on est en temps de Covid toujours, en temps normal, il y a une célébration tous les dimanches qui est organisée pour les malades. Donc une semaine sur deux, c'est catholique, c'est réformé, et puis un cinquième dimanche du mois, ben, ce sera œcuménique. Donc ça veut dire qu'on se retrouve à deux célébrants, et ça m'arrive, moi, en tant que laïque, de concélébrer, on ne peut pas employer ce mot parce que c'est plutôt un mot catholique, mais de célébrer avec un collègue pasteur où on préside ensemble, et puis il me laisse un espace comme ça pour signifier aussi cet œcuménisme lors de ces célébrations. Et c'est très chouette.
Ça s'appelle de l'œcuménisme à longueur d'année.
Exactement. Et puis, comme je vous dis, il y a aussi un lieu qui est rattaché au CHUV, qui est un lieu de réhabilitation pour des personnes âgées, pas très loin du CHUV, où tous les dimanches, un des collègues, nous allons pour faire une célébration de la parole. En ce qui me concerne, je pourrais présider une célébration de la parole. Oui.
Daniel, il y a aussi quelque chose qui me fait penser, en parlant d'écuménisme, donc vous êtes des aumôniers de différentes confessions. Ça se passe comment?
Moi, je trouve que ça se passe très, très simplement. J'aime dire qu'à la longue, je ne sais plus trop qui est catholique, qui est protestant, parce qu'on ne passe pas notre temps à discuter sur nos différences, mais plutôt à se retrouver dans les choses communes. Et je veux dire, on a plusieurs bureaux. Ben dans le même bureau, on peut être un protestant et un catholique ensemble. J'ai une collègue qui est orthodoxe aussi, et puis il y a un collègue qui est évangélique, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça veut dire que dans la pastorale ou dans l'aumônerie œcuménique vaudoise, parce que là on parle du canton de Vaud, on est dans une dynamique où on va d'abord voir des patients. On va pas voir des patients catholiques. Je vais voir des personnes qui sont dans mon service, dans les services qui me sont attribués. Et je me pose pas tout de suite la question de quelle confession ils sont. Et d'ailleurs, quand je me présente en disant bonjour, je m'appelle Daniel, je suis aumônier ou je suis accompagnant spirituel. Comment ça va? Je vais pas leur demander vous êtes catholique, vous êtes protestant. Non. Si eux veulent entrer en matière sur le sujet, c'est eux qui le font. Moi, je les accompagne là où ils sont.
Vous venez d'anticiper ma question, mais je la pose tout de même. Vous vous présentez. Mais quand vous arrivez, est-ce qu'ils sont tous « oui, bonjour », voilà. Ou bien est-ce qu'il y en a qui vous disent « allez, la porte, elle est là-bas, et puis moi, j'ai rien à faire avec la religion, j'ai rien à faire avec vous ». Comment vous réagissez à ce moment-là?
Je pense que ça, c'est tout l'art de notre métier, justement. C'est pas de récupérer les choses, mais de faire quelque chose avec tout ce qui nous est partagé. Même la personne qui nous dit « Ah non, moi, la religion, ça m'intéresse pas », moi, je peux reformuler ça. Je peux lui dire « j'entends que pour vous, quand vous entendez aumônier, ça vous plaît pas tellement. » Et des fois, les gens entrent en matière sur le pourquoi d'eux. Et là, on est en train de faire quelque chose de l'ordre de l'accompagnement. On est peut-être en train d'aller avec eux là où il s'est passé quelque chose qui a fait un clash avec la religion, qui a fait un clash. Et puis, dans cet espace entre cette personne et moi, et ces choses peuvent se dire sans jugement, sans que j'ai besoin de dire oui, mais vous savez, moi je suis catholique. Non, j'ai pas besoin de me défendre ou de défendre ma religion, mais j'essaie d'être là avec l'autre dans ce qu'elle est en train de vivre ici et maintenant, dans la relation aussi. Ça veut dire que moi, j'ai toujours dit, parce que j'ai eu l'occasion les dernières années de former des futurs aumôniers, hein, parce qu'il y a toute une formation aussi qui sont mises en place. Ben, souvent, je leur dis, c'est très important quand vous vous présentez. C'est très important parce que...
Le déclic.
C'est ça. Ou bien les gens disent, oh non, ou bien les gens disent, chouette, bienvenue. Mais avec les deux, on peut faire quelque chose. Mm-hmm. Et l'art de notre métier, c'est de pouvoir justement entendre tout et de pouvoir l'accueillir et le redonner à la personne. Des fois, ça ouvre sur une discussion. Et des fois, ça fait que, ben, au revoir, merci, une bonne fin de journée. Ça peut se terminer comme ça aussi.
C'est peut-être plus facile avec des gens qui vous rebutent au départ qu'avec des gens qui vous disent oui, bienvenue, puis qui n'ont peut-être rien à vous dire.
Oui, moi je pense que c'est ça. Je pense que les gens qui, comme vous dites, qu'on rebute, ils sont en train de nous dire quelque chose. Et l'art de notre métier, c'est d'entendre ça. D'entendre qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de la spiritualité, de la religion. Et souvent, moi, je dis que souvent, on a acheté le bébé avec l'eau. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la religion, quand ils étaient jeunes, je ne sais pas quoi. Et ils ont tout jeté avec. Et quand ils peuvent le nommer, quand ils peuvent en parler, quand ils peuvent le poser sans jugement, juste dans l'accueil comme ça, et qu'on leur dit, mais finalement, est-ce que vous croyez quand même en Dieu ? Elle dit, mais oui, je prie tous les matins. Vous voyez, il y a quand même, mais il y a besoin quand même de déposer cette espèce de traumatisme qui est resté peut-être et qui fait que j'ai le sentiment de m'éloigner, mais en fait, Dieu, il est toujours là quand même pour moi.
Et c'est peut-être plus facile de parler quand on est face à des personnes qui sont neutres.
C'est ça. Donc, ça veut dire que dans mon métier, moi, je sais d'où je viens. Je connais mes racines, je connais mon enracinement religieux et spirituel, mais j'ai pas besoin de l'afficher là. J'ai pas besoin de le nommer là. Je peux rester très neutre devant les gens et d'accueillir tout le monde, en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, je peux me retrouver devant un monsieur qui est musulman. Et puis, comme je dis des fois, ben, peut-être que je l'aiderai à être un très bon musulman aussi. Vous voyez.
Daniel, vous avez mis dans votre livre différents récits de rencontres. Vous en avez une qui vous tient spécialement à cœur?
Peut-être que c'est en lien avec ce qu'on vient d'échanger justement sur le fait que des fois on nous reçoit de différentes manières, hein, quand on se présente en tant qu'aumônier. Je vais vous la lire comme ça, c'est plus fidèle à... Dire que je suis aumônier peut ne rien vouloir dire du tout à certaines personnes. Je dois alors expliquer en quoi cela consiste. Ou au contraire, créer une réaction immédiate d'accueil, ou comme ici, de rejet apparent. Cela dit, Monsieur J a eu une espèce de réaction de recul très spontanée et tellement évidente. Heureusement, je l'ai vu. J'ai pu la valider et l'accueillir. J'ai compris très vite dans l'échange qui a suivi que Monsieur J avait vécu dans son enfance en lien avec l'Église, les prêtres, les religieuses, qui avaient fait son éducation beaucoup de choses désagréables et traumatisantes. D'entendre tout cela, d'accueillir sans juger, sans chercher à me défendre ou à défendre quelque institution que ce soit, a permis, en très peu de temps, qu'une sorte d'alliance se crée entre ce monsieur et moi. Sa femme lui a alors dit, tu vois, tu peux parler, tu peux te confier à l'aumônier. Et je vous raconte un petit bout plus loin. Samedi matin, 9h30, j'entre dans la chambre de Monsieur J. Madame est là, elle a dormi dans le lit à côté de lui. La nuit a été plus calme que les autres. Elle m'invite à venir voir l'état de son mari. Il lui semble qu'il a changé. En effet, sa peau devient mate. Clair, un peu jaune. Il ne bouge pas du tout. Il a des respirations rapides et saccadées, avec des périodes de courte apnée. Je pose ma main sur la sienne en le saluant. Après un court moment, nous convenons d'appeler l'infirmière. Celle-ci vient et nous confirme que M. J est entré dans une phase finale. Une fois, il aura une apnée et ne reprendra pas son souffle. Silence, attente. Vers 9h45, M. J expire pour la dernière fois. Pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à la mort en direct. La semaine suivante, lors du service funéraire, j'ai tout simplement partagé aux personnes présentes le chemin parcouru avec M. J durant les derniers mois. J'ai dit comment, à partir d'une réticence évidente au départ, la relation créée avec lui à travers l'accueil, le non-jugement, l'empathie et l'authenticité avait permis, et j'ose le croire, qu'il puisse se réconcilier, ne serait-ce qu'un instant, avec son Dieu.
Daniel, nous arrivons au terme de notre émission. Vous m'avez dit que vous preniez, ou bien j'ai cru comprendre, que vous preniez votre retraite, c'est bien ça?
Oui.
Quels sont vos projets pour cette nouvelle vie qui s'ouvre devant vous?
Écoutez, je viens d'avoir 60 ans. Avec mon épouse, on a fait le projet déjà depuis quelques années de partir au Québec pour notre retraite. Donc, ça fait 34 ans que je vis ici. Et puis, un jour, elle a proposé, il y a quelques années, qu'on aille vivre notre retraite au Québec. On avait toujours rêvé d'avoir un pied à terre là-bas et un pied à terre ici. Et peut-être que c'est maintenant que ça va un peu se réaliser. Et puis, on se dit qu'à 60 ans, on a encore la santé, on peut encore faire des choses. Étonnamment, même si j'ai 60 ans, je suis encore assez jeune, c'était bien de terminer le travail. Je veux dire, c'est quand même un métier, j'ai toujours pratiqué un métier où je m'occupais des autres. Et je pense que c'est bien de s'occuper de soi aussi. Et il y a plein d'autres choses que j'ai pas eu le temps de faire, ou j'ai pas beaucoup le temps de faire, comme du jardinage, comme travailler le bois, ou faire de la musique, ou des choses comme ça. Et j'espère trouver du temps pour toutes ces choses-là. Et puis on viendra en Suisse, en vacances. Voilà. Ça nous changera.
Et puis au Québec, peut-être que vous serez engagé pour être aumônier de temps en temps.
Ah, ça, je ne sais pas. J'ai comme dans l'idée que la vie professionnelle s'est terminée. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion dans ces dernières années de pouvoir vivre des expériences de transmission où j'ai pu transmettre à d'autres des livres, j'ai pu transmettre à d'autres des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être. Et j'ai essayé de les nommer et vraiment les transmettre très concrètement. Juste pour vous raconter... Le 21 décembre, on a fait une méditation le matin au CHUV. C'est moi qui l'ai animé. J'ai invité les collègues spécialement à venir parce que, bien sûr, toutes les fêtes, les apéros et tout ça, ça avait été annulé à cause du Covid. Donc, je me suis dit, on va faire une méditation ensemble. Et à la fin de cette méditation, j'ai transmis une plante à une collègue parce que moi, j'aime bien m'occuper des plantes. Puis pour moi, c'est une manière de m'occuper des gens. Et je lui ai transmis une de mes plantes. J'ai mis ma guitare à un de mes collègues parce que durant les méditations, j'utilisais ma guitare avec les chants de Thésée, etc. Donc, je l'ai transmis à mon collègue qui joue de la guitare en disant « Tu pourras continuer ». Et à la fin, j'ai enlevé mon aube et je l'ai remise entre les mains d'une collègue aumônier qui est tout des gestes symboliques de transmission. Et ça aide, je trouve que ça aide à terminer, à tourner une page. Aller vers autre chose.
Daniel, merci beaucoup pour ce témoignage. On vous souhaite bonne chance, bonne route.
Bien sûr.
Durant cette émission, Daniel a insisté sur l'écoute. Écoute de soi pour mieux écouter les autres. Quel plus beau message en ces temps difficiles que nous traversons. Écouter, dialoguer, se comprendre et s'accepter dans nos différences, tel devait être notre leitmotiv en ces semaines qui nous conduiront à Pâques. Si vous souhaitez vous procurer un ouvrage de Daniel Levasseur, vous pouvez le commander aux éditions Saint-Augustin. Je vous rappelle le titre, « La parabole du mûrier, chronique d'un aumônier d'hôpital ». Bonne route à tous et toutes, beau dimanche, belle semaine, au revoir.
Fribourg,
Coin de ciel.